Quand j'avais programmé cette rencontre de ce soir, il y a plus d'un an, je pensais qu'on aurait eu les résultats de justement de la commission d'enquête qui a été mise en place au niveau du Vatican sur Medjugorje, mais on attend toujours le résultat. Et ils ont fait savoir que ce n'était pas proche, donc voilà. Donc ça nous aurait donné une occasion de nous pencher un peu plus sur ce qui aurait été dit. Voilà. Donc je voulais dire ça en premier lieu, puis je voulais dire en second lieu que, ayant été pendant 17 ans à Notre-Dame-du-Chêne, et ayant donc côtoyé les milieux des personnes très mariales, j'ai été aussi secrétaire de la Société française d'études mariales pendant 10 ans, qui est un organisme d'études un peu universitaire. On fait des colloques, un colloque tous les ans, avec publication. Donc j'ai été obligé de me pencher un peu sur ces questions pour essayer d'y voir plus clair, quoi. Et puis une troisième chose que je voulais dire, c'est qu'à titre personnellement, je me suis converti, moi, grâce à la récitation du chapelet. C'est vieux, ça. C'est 1971. Mais j'ai donc je dois mon sacerdoce, mon engagement en sacerdoce en tout cas à la Vierge Marie, quoi. J'en ai une vive conscience. Je dis ça pour que vous ne soyez pas surpris d'un certain nombre de choses que je vais dire ce soir et que vous ne croyiez pas que je sois anti-marial. Voilà. Alors, dans une introduction, peut-être on peut. Vous savez sans doute qu'il y a quatre grands dogmes qui concernent la Vierge Marie. À savoir sa maternité divine, sa virginité, l'Immaculée Conception et l'Assomption. Ça, vous savez à peu près, hein. En tout cas, les deux derniers sont récents, puisque l'Assomption de Marie, c'est 1950, et l'Immaculée Conception, c'est donc 4 ans après Lourdes, c'est-à-dire 1858, hein, 19e et 20e siècle. C'est récent. La virginité de Marie, en revanche, ça n'a jamais donné lieu à une définition dogmatique. C'est une croyance qui remonte au début de l'Église. Tandis que la maternité divine, elle, date du 5e siècle en tant que définition précise, le Concile d'Éphèse en 431, puisqu'il y avait un évêque qui s'appelait Nestorius, je crois, et qui avait dit, on ne peut pas dire que Marie est mère de Dieu, on peut dire que Marie est mère de l'homme, Jésus, mère du Christ, Jésus, de l'homme, mais pas de Dieu quand même. Et donc, ça a donné lieu à cette hérésie qu'on a appelée le nestorianisme, du nom de ce Nestorius. Et il a fallu qu'un concile tranche, le concile qui s'est réuni à Éphèse, en Turquie, en 431. Et notamment, Saint Cyril d'Alexandrie, je crois, était très, très, très vigoureux pour faire reconnaître ce qu'on a appelé la maternité divine de Marie. En disant, on peut dire que Marie est mère de Dieu. On ne va pas dissocier en Jésus l'homme d'un côté et le Dieu de l'autre. Il est une seule personne en deux natures, c'est évident, mais une seule personne. Donc à partir du moment où Marie est sa mère, elle peut être appelée mère de Dieu. En tout cas, ces quatre dogmes sont véritablement concernent toutes les facettes de la révélation et quand vous regardez la maternité divine, pardon, ça concerne l'incarnation de Jésus. La virginité, ça concerne la nouvelle humanité par l'opération du Saint-Esprit. L'Immaculée Conception, ça concerne la question de la rédemption du péché originel, donc de la grâce. Hein, c'est ce qui vous est noté ici. Et puis l'Assomption concerne plus la résurrection, la destinée éternelle, le monde nouveau. Donc on a un peu toutes les facettes de la révélation qui sont contenues dans ces dogmes. Et un plus grand attachement à l'unique révélation, c'est donc le terreau dans lequel s'enracinent les critères de discernement, de nouvelles révélations privées ou de nouvelles apparitions mariales. Il faudra que ça corresponde à ces différentes facettes, si vous voulez. Alors, on va se poser une première question, c'est quelle est la place des révélations et des apparitions dans la vie du chrétien? pas seulement des apparitions mariales, hein, mais en règle générale des révélations privées et des apparitions qui peuvent être des apparitions de Jésus, des apparitions de Marie, des apparitions des saints. Quelle est la place? Pour y répondre, on va recourir au texte qui s'appelle Verbum Domini, parole du Seigneur, qui a été donné en 2010, donc c'est récent, et qui donnait les conclusions du synode de 2008, qui était un synode sur le thème de la parole de Dieu. Il y a eu depuis en 2012 un synode sur la nouvelle évangélisation, oui, dont le document final sera donné par le nouveau pape. Mais ici, Benoît XVI avait donné, donc 2 ans après le synode, en 2010, un condensé. Et au numéro 14, il y a quelque chose d'assez intéressant, qui est un petit peu long, mais qu'on va regarder, où il est dit ceci: l'Église exprime qu'elle est consciente de se trouver avec Jésus face à la parole définitive de Dieu. Il est le premier et le dernier. Il a donné à la création et à l'histoire son sens définitif. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre le temps et à habiter la création de Dieu selon le rythme eschatologique de la parole. L'alliance nouvelle et définitive ne passera jamais. Aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une citation du Concile Vatican II, de la Constitution sur la parole de Dieu, Dei Verbum, où il est dit donc aucune nouvelle révélation publique, hein, ne doit plus être attendue avant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ce passage va citer Saint Jean de la Croix, et on va aller au paragraphe en caractère gras qui est dans la colonne de droite. Saint Jean de la Croix dit, celui qui voudrait maintenant interroger le Seigneur et lui demander des visions ou des révélations, non seulement ferait une folie, mais il ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ et en cherchant autre chose ou quelque nouveauté. Donc dans son livre Montée au Carmel, Saint Jean de la Croix, qui est donc réformateur du Carmel, avec Thérèse d'Avila, 16e siècle, et puis qui est donc docteur de l'Église. Et donc, si on remonte un tout petit peu plus haut dans le paragraphe, au début de la citation, dès lors qu'il nous a donné son Fils, le Père, alors que le Père nous a donné son Fils, qui est sa parole unique et définitive, il nous a tout dit à la fois, et d'un seul coup, en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Vous voyez, il est tout à fait ferme, hein? Car ce qu'il disait par partie, par fragment au prophète, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Donc, si aujourd'hui on veut savoir encore d'autres choses, bah, on est un peu à côté de la plaque. Voilà. Et puis, ce numéro 14 donc, progresse en disant, le synode a recommandé d'aider les fidèles à bien distinguer la parole de Dieu, d'une part, des révélations privées, d'autre part, dont le rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Ça, c'est une citation du catéchisme de l'Église catholique. Donc, les révélations privées, oui, mais pas pour compléter, pour approfondir, pour aller plus loin, pour mieux saisir l'unique révélation. La valeur des révélations privées est foncièrement différente de l'unique révélation publique. Et vous voyez qu'on met révélation privée avec un petit R et révélation publique avec un R majuscule. Car celle-ci exige notre foi. Seule la révélation publique exige notre foi. En effet, en elle, au moyen de paroles humaines et par la médiation de la communauté vivante de l'Église, Dieu lui-même nous parle. Le critère pour établir la vérité d'une révélation privée, c'est donc son orientation vers le Christ lui-même. Quand celle-ci nous éloigne du Christ, alors elle ne vient certainement pas de l'Esprit Saint, qui nous conduit à l'Évangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi, et elle se montre crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. C'est pourquoi l'approbation ecclésiastique d'une révélation privée, que ce soit une apparition ou bien des locutions ou des mises par écrit, hein, indique essentiellement que le message s'y rapportant ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis alors de le rendre public et les fidèles sont autorisés à adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d'anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique et elle peut être une aide valable pour comprendre et mieux vivre l'Évangile à l'heure actuelle. Elle ne doit donc pas être négligée. Et au début, on avait l'impression que vraiment c'était un peu à mettre aux orties, mais voilà, on nous dit ça ne doit pas être négligé, c'est une aide qui nous est offerte. Mais il n'est pas obligatoire de s'en servir, c'est facultatif. Dans tous les cas, il doit s'agir de quelque chose qui nourrit la foi, l'espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin permanent du salut. Voilà ce que dit donc le document que Benoît XVI avait donné, qui s'appelle « Parole du Seigneur, Verbum Domini », au numéro 14, après le synode de 2008. Et puis j'ai ajouté une citation du père Alain Bandelier, qui est père du foyer de charité de Combes-la-Ville, en région parisienne, et qui écrivait cela dans un article publié dans la petite revue Pentecôte aujourd'hui, en 98. À proprement parler, il n'y a pas à croire aux révélations particulières. Il n'y a pas à croire aux révélations privées. En tant qu'événement, elles ne sont pas objets de foi, mais d'enquête. Elles sont vraies ou elles sont fausses, en tant qu'événement. En tant que signe de Dieu, éventuel, elles ne sont pas non plus objets de foi, mais appel à la foi, appel à croire au Christ. Vous avez remarqué que tous ces jours-ci, le pape disait, aussi bien Benoît XVI que François, que le centre de l'Église n'est pas le pape, mais le Christ. Voilà. Et le pape doit renvoyer au Christ, de même qu'une révélation privée doit renvoyer au Christ et à la révélation publique. Donc elle n'est pas objet de foi, mais appel à la foi en la révélation publique. Elle n'invite pas à se centrer sur elle, mais sur celui dont elle témoigne. Ce serait un déséquilibre spirituel que d'en faire un absolu, hein, les gens qui sont fanatiques d'une apparition, voilà. De nourrir sa vie spirituelle de révélations particulières, en prenant sa dose chaque mois avec une revue appropriée auquel on est abonné, de se faire l'apôtre d'un lieu d'apparition au lieu de prêcher l'apparition par excellence qui est le Verbe fait chair. Il y a les subtiles déviations qu'il peut y avoir. En revanche, quand tel ou tel signe est authentique et que la Providence permet, d'une manière ou d'une autre, qu'il nous atteigne, il serait présomptueux et prétentieux de décréter comme beaucoup « je n'ai pas besoin de cela pour croire ». Pour croire, sans doute, mais pour mieux croire, sans doute pas. Ou alors, c'est une façon de dire à Dieu que nous savons mieux que lui ce qui est bon pour nous et qu'il a bien tort de se déranger. Donc vous voyez, c'est assez nuancé, hein, mais ça permet bien de situer les choses. Voilà. Donc c'était une première réflexion pour essayer de montrer quelle doit être la place exacte des révélations privées et des apparitions, notamment mariales, par rapport à la révélation publique, à l'unique révélation publique. Abordons une deuxième réflexion sur les critères retenus par l'Église pour discerner les vraies et les fausses apparitions ou révélations.